ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il est ma sagesse.
Jésus-Christ éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire
ma justice.
Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Son sang,
son
justice.
Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon
par la foi.
Son sang,
son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon
par la foi.
Il est ma sagesse.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Alléluia. Seigneur, merci de nous conduire par ton esprit. Jésus, nous croyons en ta fidélité, en ton amour. Alléluia. Bien aimé ce chant, le premier couplet, à l'original, il dit « Tu es ma vie éternelle, c'est toi ma vie. tout au long de mon pèlerinage sur la terre, Seigneur, aide-moi à rester près de toi. Près de toi, près de toi. Donc, c'est l'original est encore très profond. Parce que c'est Jésus qui doit marcher avec nous. Et nous allons nous asseoir, écouter la deuxième partie de notre enseignement sur le défi de l'évangélisation. Aujourd'hui, notre thème, c'est être un témoin de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de la prise de conscience. Il fallait prendre conscience d'une première chose, prendre conscience de la détresse de l'humanité, de la souffrance des humains. Prendre conscience des viols, des massacres, des injustices, des maltraitances d'enfants. Prendre conscience de la souffrance du pauvre à cause des dictatures. Prendre conscience de la domination des magiciens sur beaucoup d'humains. Prendre conscience de la domination des politiciens, des faux politiciens, les faux administrateurs des pays. Il fallait prendre conscience de la souffrance de l'humanité à cause des maladies, à cause du péché, en bref. Et ce péché qui entraîne l'aveuglement, de sorte que les hommes ne savent même pas, ne réalisent même pas qu'ils sont en train de périr parce qu'ils sont aveuglés par le péché. Beaucoup périssent, mais ils ne réalisent même pas. Et c'est ça qui est horrible, que beaucoup perdent totalement. La multitude a perdu l'intelligence à cause du mal et ils ne réalisent même pas qu'ils se perdent. C'est pourquoi Jésus avait dit à Paul, « Je t'envoie, je te sors du milieu de ce peuple pour t'envoyer au milieu des païens. » Afin que tu leur ouvres les yeux. Il y a un travail pour ouvrir les yeux. Il faut que les yeux des païens qui ne voient plus la réalité, ils ne savent plus, comme les gens de Ninive, comme on avait demandé à Jonas, les gens de Ninive ne savaient plus différencier leur gauche de leur droite. Eh bien, c'est le cas de tous ceux qui n'ont pas Dieu. Ils ne savent même plus différencier leur gauche de leur droite. Ils ne savent plus. Donc, ils ont besoin des gens qui puissent leur dire, regardez, voilà la partie gauche, voilà la partie droite. Ils ont besoin de cela. Et comme on avait dit hier, devant l'immensité de la tâche, devant la difficulté de la tâche, parfois, on a écouté la voix de l'ennemi qui nous a dit, mais ils sont mauvais, on ne peut rien, ils sont trop durs, ils sont trop incrédules, ils sont trop méchants, et nos cœurs se sont fermés à la suite des refus, à la suite des rejets. On s'est fermé les cœurs. À la suite de manque de résultats, beaucoup par manque de résultats, leur cœur s'est fermé par rapport à ceux qui se perdent. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il fallait prendre conscience de la deuxième chose, de la puissance du salut de Jésus-Christ. La puissance. Bien-aimé, Jésus a souffert. Il a été injurié. On a craché sur lui. Lui, le Fils de Dieu. S'il est descendu si bas, c'est parce qu'en descendant si bas, il garantissait notre salut. Il faut être sûr du salut de Jésus. Pour bien être sûr du salut que Jésus apporte, il faut méditer ses souffrances. Il faut communier avec ses souffrances. Plus tu connais les souffrances de Jésus, plus tu réalises le salut des humains, qu'il est possible. Et que rien ne doit te décourager. Tu as ton rôle à jouer dans ce salut de l'humanité. On ne te demande pas de jouer le rôle de Dieu. On te demande de jouer le rôle que Dieu a prévu pour toi. Mais ne sois pas déstabilisé par l'immensité de la tâche, par la complexité de l'homme ou par la difficulté, mais sois plutôt conscient de la puissance de salut de Jésus. Et il y a une phrase capitale dont tu dois te souvenir, c'est que Jésus a dit, « Tout est accompli. » J'ai fini l'affaire. J'ai réglé la question. S'il a dit « Tout est accompli », donc, lorsque nous partons dans l'évangélisation, nous partons en position de force et non en position de faiblesse. Parce que tout est accompli. Et beaucoup partent dans l'évangélisation en position de faiblesse. Parce qu'ils se disent, c'est compliqué, c'est difficile, je n'ai pas de puissance. Oui, tu n'as pas de puissance, mais Jésus est tout puissant. Il faut que Jésus soit ton compagnon dans ce pèlerinage. Que tu es en train de faire sur terre. Il faut qu'il marche avec toi. On ne te demande pas à toi de faire des exploits. Mais Dieu a prévu de faire des exploits avec toi. Mais c'est toi, c'est pas toi la source, c'est lui-même la source. Mais le plus important, qu'il soit avec toi. C'est ça. Et nous sommes posé la question, que dois-je faire? Eh bien, que devions-nous faire? Hier, on a dit qu'il fallait répondre oui à l'appel de Jésus. Oui. Dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord de voir le diable faire souffrir les humains. Je ne suis pas d'accord de voir des orphelins emprisonnés dans des orphelinats qui deviennent des prostituées, des ministres, des politiciens au Portugal. Je ne suis pas d'accord de voir que les chrétiens ont honte maintenant de dire que Jésus est Seigneur. Je ne suis pas d'accord. Et je crois que tout est accompli. Je crois que si moi je suis disponible, tu manifesteras ta gloire à travers moi. Répondons oui. Deuxième élément, mettons foi en l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a manifesté à la croix. Il faut mettre foi en cette œuvre. Croire que réellement tout est accompli. Comme je disais hier, quand je vois le film sur Jésus, je vois comment il était poussé, il chancelait. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Si Jésus a enduré tout ça, c'est que notre salut est garanti. Il n'a pas souffert pour rien. Son sang n'a pas coulé pour rien. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, 11, « Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. » Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi faire. Ce que Dieu attend de nous, concrètement, c'est être un témoin. Un témoin, vous savez, quand on dit témoin, on voit souvent la personne qui a vu. On dit, bon, il a vu la scène. Mais il y a une autre manière de dire il a vu. Il a vécu. Donc un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu la situation, qui a vécu la scène. Donc lorsqu'on se limite à voir, on ne prend pas la portée du mot témoin pour Dieu. Quand Dieu dit dans Actes des Apôtres, c'est ça notre verset principal aujourd'hui, Actes des Apôtres chapitre 1er au verset 8, Jésus dit, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8, que nous connaissons, mais nous allons le relire. Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit sera opérationnel en vous, il y aura une puissance qui fera de vous mes témoins. Mais témoins, pour beaucoup, ils se limitent au côté voir. Mais non, quand Jésus dit témoin, il veut dire le côté vivre. Donc quand on parle d'un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu les situations dont il doit témoigner, qu'il doit certifier comme étant vrai, qu'il doit parfois rapporter. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte ou qui certifie la véracité d'une circonstance, d'une situation. Et pour cela, il doit l'avoir vécu. Pas seulement voir, mais vivre. C'est cela la réalité biblique. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera sur vous, vous me vivrez. Et vous pourriez parler de moi, de ce que vous vivez. Et c'est la chose qu'on a oubliée. Aujourd'hui, quand on dit évangélisation, qu'est-ce que tout le monde voit? Parler, faire des campagnes, louer des grandes salles, inviter les gens. Quand on dit évangélisation, tout le monde voit distribuer les tracts. Mais dans la Bible, ce qui est dit, c'est le mot témoin. Vous serez mes témoins. Donc, il faut que Jésus vive en toi et c'est ce Jésus qui vit en toi que tu vas transmettre aux autres. Si Jésus ne vit pas en toi, eh bien, qu'est-ce que tu vas transmettre? Alors, aujourd'hui, on voit des gens qui font des campagnes d'évangélisation, qui prêchent très bien, fortement, mais dès que la prédication finit, ils deviennent jaloux. Le prédicateur, hein, je ne parle pas des gens qui écoutent, hein, le prédicateur lui-même, il devient jaloux.
Il cherche à savoir combien de gens il y avait. Il cherche à savoir l'argent, le montant des offrandes. Donc, c'est des gens qui sont devenus des professionnels de l'art, du blablabla, mais leur vie ne correspond pas à l'évangile. Ce n'est pas ça l'ordre de Dieu. Dieu ne nous a pas dit, allez parler, parler, parler. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous vivez d'abord Jésus, vous l'avez et vous pouvez parler maintenant de lui. C'est clair. Ce qui fait qu'il y aura de la puissance, il y aura du changement. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de salles sont pleines des gens qui se disent chrétiens. Mais ils ne sont pas vraiment chrétiens parce qu'ils ne vivent pas Jésus. Beaucoup de salles sont pleines et il y a des gens, des prédicateurs qui prêchent. Mais ces prédicateurs-là, ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils parlent de Jésus qu'ils sont chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit Jésus, qui est comme Jésus, qui vit comme lui. Quelqu'un qui va te demander, comme dernièrement, hier sur Internet, j'ai reçu le message d'un serviteur de Dieu très connu aux États-Unis, parce que je m'étais un peu abonné à sa lettre de... sa lettre d'information. Et il y a un message qui est dit, bien-aimé, il faut passer à une étape supérieure. C'est un message qu'il a prêché. Et pour lire ce message qu'il a prêché, il fallait payer, faire un don financier. Après, le message prêché va s'imprimer sur l'écran. Tu peux lire. Je dis, mais c'est pas possible. Qui peut me dire que cet homme-là est chrétien? Je peux vous dire que des millions, même des milliards de gens vont dire que cet homme-là est chrétien parce que son église, il y a plus de 7000 personnes. Mais moi, je ne crois pas qu'il est chrétien. Je ne le crois pas. Parce que Jésus n'aurait pas demandé de l'argent avant que quelqu'un écoute sa prédication. Jamais. Et c'est bien écrit. Fais un pas. Donc, on t'explique que le message que tu vas entendre, lire, va te faire faire un pas, grand pas spirituel. Mais avant, il faut faire une preuve de... J'ai oublié le terme qu'ils ont donné à ça. Il fallait donner un certain montant, une somme financière. Moi, j'ai dit, bien-aimé, j'affirme qu'une telle personne n'est pas chrétienne. Ce n'est pas un témoin de Jésus-Christ. C'est un professionnel de l'éloquence, oui. C'est un coach. Mais ce n'est pas un vrai prédicateur de Jésus. Le vrai prédicateur de Jésus va ressembler aussi à Jésus. Il a dit, vous serez mes témoins. Quand on voyait Paul, on voyait qu'il était comme Jésus. Quand on voyait Jean, Pierre, ils étaient comme Jésus. Simples comme Jésus. Doux comme Jésus. Puissants comme Jésus. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens cherchent quoi? Ils cherchent la puissance. Ils cherchent la puissance pour faire des miracles. Ils cherchent la puissance pour prêcher. Mais ils négligent la puissance pour être comme Jésus. Mais à quoi ça sert de prêcher quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne vis pas? Ça ne sert à rien. Bien-aimés, concentrons-nous sur Jésus. Il a dit pour être mes témoins. Nous revenons sur l'évangélisation. On a dit hier que Jésus veut dire Yahvé sauve. Donc, comment Dieu accomplit son salut dans l'humanité? Par Jésus. C'est son instrument principal. Parce que son nom, c'est le salut de Yahvé. Quand Jésus est mort, il a dit aux disciples, je ressusciterai. Et il a dit, après, quand il devait aller au ciel, il a dit, préférez que j'aille au ciel que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit allait faire que Jésus habite dans chaque homme. Et Jésus, dans chaque chrétien plutôt, véritable. Et quand Jésus allait habiter dans chaque chrétien véritable, il allait en avoir combien? Des milliers de Jésus qui allaient être très efficaces. C'est ça, être témoin. Le Saint-Esprit devait revenir habiter maintenant dans chaque chrétien. Il a dit, préférez que je m'en aille, parce que si je suis avec vous, on est limité. Mais si je pars, le Saint-Esprit viendra me réaliser en chacun d'entre vous et on serait nombreux maintenant pour faire l'œuvre. C'est ça, être témoin. La grande question qu'il faut se poser, est-ce que Jésus est réalisé en moi? Est-ce que je le laisse vivre? Aujourd'hui, si tu vis, tu ne vis pas pour servir à une décoration. Tu n'es pas un bijou. Tu es comme un véhicule. Le véhicule sert à transporter les gens. Un véhicule de collection ne sert à rien du tout. Dieu n'a pas besoin de véhicules de collection qui sont enfermés pour l'exposition. Il a besoin de véhicules qui fonctionnent, qui marchent. Tu es un véhicule. Le plus important dans le véhicule, c'est le patron, c'est le chauffeur. Si Jésus n'est pas le chauffeur de ton véhicule et que c'est toi-même, sache que tu as loupé ta mission. Tu n'es pas un témoin. Tu n'es pas un témoin. Le témoin, c'est celui qui dit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est celui-là. Jésus se réalise en lui. Et pour cela, bien aimé, il faut beaucoup de puissance. Il faut beaucoup de puissance pour que Jésus soit réalisé en toi. C'est pourquoi il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et c'est la puissance du Saint-Esprit allait imposer Jésus dans tous ceux qui aiment Jésus, dans tous ceux qui veulent de Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Donc si tu veux bien comprendre les choses, c'est que Jésus étant le salut de Dieu, ce salut-là continue en qui? En toi, pour sauver les autres. Jésus continue à travers le véhicule que tu es, son œuvre de salut pour sauver les autres. Si tu existes, c'est pour être ce véhicule-là, afin que les autres soient sauvés. C'est ça le rôle du Seigneur, le salut de Yahvé. Yahvé sauve. Et lorsque tu oublies cela, eh bien, tu sors de la mission de Dieu. C'est pourquoi demain, nous allons parler de l'ouvrier selon Dieu. C'est important parce qu'on s'est trompé de beaucoup de choses. On a cru qu'on devait être ouvrier pour être célèbre. On devait être ouvrier pour soi-même. Non, on va apprendre ce que c'est qu'un ouvrier selon Dieu. Premier élément, bien-aimé, il faut qu'on soit concret aujourd'hui. Comment être un témoin du Seigneur? Je vais donner 4 points seulement, et puis d'autres commentaires, mais 4 points essentiels pour qu'on se rappelle les choses. Le premier point, nous devons mener la même vie de pureté et d'amour que Jésus-Christ. C'est ça un témoin. Mener la même vie de pureté et d'amour. Ça, bien-aimé, les gens ont oublié ça. Aujourd'hui, quand on dit un témoin, on te demande, est-ce que toi tu as la puissance de guérison? Est-ce que tu parles bien? Non. D'abord, mener la même vie de pureté et d'amour. Et pourquoi je lis la pureté et l'amour? Parce qu'il ne suffit pas d'être pur dans le sens où on ne t'attrape pas avec les péchés comme le vol, le cambriolage, prendre les femmes d'autrui ou des choses de ce genre-là. Tu te dis, je suis pur. Non, la pureté, c'est non seulement ne pas pécher, mais c'est aussi manifester l'amour du Seigneur. Beaucoup de gens se croient purs parce qu'ils ne sont pas attrapés par des péchés visibles, mais ils sont jaloux, ils n'aiment pas ceux qui pêchent, ils négligent ceux qui ne sont pas forts. Et ce n'est pas bon, c'est un caractère qui n'est pas du Seigneur. Et un tel caractère ne peut pas produire le salut chez quelqu'un d'autre. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas le caractère d'amour qui va avec la pureté, qui va faire qu'on excuse le mal des autres, qui va faire qu'on cherche seulement le salut des autres, comme la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle avait commis un péché visible. Et les gens qu'on n'avait pas attrapés avec ce genre de péché voulaient la tuer. Jésus dit non, mais la vraie pureté, c'est d'abord aimer. D'accord, ce n'est pas péché comme cette femme. Mais est-ce que vous n'êtes pas jaloux? Est-ce que vous ne critiquez pas? Est-ce que vous, bien-aimé, si on mélange la pureté, c'est-à-dire le fait de ne pas pécher, et l'amour, on entre dans la vraie nature de Jésus-Christ, on devient un vrai témoin. Sinon, on est quoi? On est un véhicule de collection, on ne sert à rien. Vous connaissez le véhicule de collection, non? on est un tableau. Un tableau, il est affiché, il est accroché et il ne sert à rien. Et comme il ne sert à rien, il n'a aucune puissance, on peut prendre ce tableau et le brûler par quelqu'un, par inadvertance. Bien-aimé, premier point, vivre la même pureté que Jésus-Christ. Aujourd'hui, tant de gens qui se disent témoins de Jésus divorcent tranquillement avec les conseils des pasteurs. Tranquillement. Comment peut-on dire qu'on est témoin? Où est la différence? Il faut que notre pureté fasse que les autres voient leur impureté. Mais si on n'a pas la pureté, mais comment les autres peuvent-ils constater leur impureté? Parce qu'on dit évangéliser, témoigner, mais c'est pourquoi? Pour que l'autre reconnaisse sa faute, son péché, et vienne pour être sauvé. Comment l'autre pourrait-il reconnaître qu'il est en état de péché si vous deux, vous avez les mêmes réactions, vous vivez la même vie? On n'est plus de témoins, même si on peut toujours parler, venir dans l'église, prêcher, mais on n'est plus témoin puisqu'on ne sert plus de lumière. La pureté, c'est la lumière. La pureté, c'est la lumière. Quand les gens te connaissent comme étant pur, dès que tu arrives quelque part, les gens se mettent dans de bonnes positions. Ceux qui avaient des habits mal placés, ils arrangent leurs habits. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent comme étant pur. Ils te connaissent comme étant pur. Ceux qui étaient dans un mauvais comportement, ils changent de place. Ils te connaissent comme étant pur. Et même quand les gens ne te connaissent pas, le simple fait qu'on dise « c'est un pasteur », automatiquement, les comportements changent. Parce que c'est supposé qu'il est pur, donc nous aussi, on ne peut pas être en sa présence dans nos impuretés. Voilà. Un vrai témoin, c'est celui qui vit la pureté. Il ne ment pas. Aujourd'hui, combien de chrétiens n'attrapons-nous? On les attrape en train de mentir comme des païens. Vous savez, quand un païen t'attrape comme ça en train de mentir, c'est fini. Il excuse tous ses propres mensonges. Donc, il n'a plus la soif d'être sauvé, bien-aimé. Sauver les gens, ce n'est pas le blablabla. C'est la pureté. Tu es pur, tu éclaires leur péché par ta pureté et ils se voient pécheurs. Ensuite, à cause de l'amour que tu as pour eux, ils viennent vers toi pour dire, mais que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Parce qu'ils sentent que ta pureté n'est pas condamnatrice. Mais si tu as une pureté condamnatrice, tu te regardes. Les gens te voient pur, c'est vrai. Ils ont peur de toi, mais en même temps, ils sont déstabilisés, ils sont déboussolés, ils se disent, c'est fini pour nous, on est condamnés, on n'arrivera jamais à être pur comme lui. On ne peut même pas venir lui demander des conseils, aller lui demander des conseils, parce qu'il va nous repousser. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit pur, mais qu'on soit amour en même temps. Et cet amour, la pureté, va éclairer les ténèbres chez les autres, va montrer leurs fautes, et l'amour va les attirer vers le salut. C'est ce que Dieu veut. Pureté et amour. Pas être de ceux-là qui sont en train de rabâcher sur les fautes des autres jour et nuit. Non. Dieu ne nous a pas envoyés juger, mais sauvé. Notre pureté juge elle-même, sans qu'on parle. Notre comportement de pureté, de vérité, juge elle-même les autres. Quand Jésus passait, Zachée l'a vu. Dans Luc 19, Jésus a dit, je vais aller manger chez toi. Il a dit, oh, moi, comment peux-tu venir manger chez moi, toi qui es si pur? Zachée était touché à cause de son péché. Il a dit, mais voilà l'homme qui est pur, moi je suis impur. Mais il était sans solution, il était sur un arbre. Il a dit, mais je suis impur. ça se termine là. Mais quand la pureté l'a invité pour dire « je vais manger chez toi », l'amour a pris la place, il a dit « ah, il y a donc peut-être une solution. Si la pureté m'invite, c'est que c'est possible. Il y a quelque chose qui est possible. » Et Zachée, sans que Jésus parle, lui-même dit « Seigneur, je prends l'engagement de ne plus faire de péché, de vendre tous mes biens, de rembourser tout ce à qui j'ai pris quelque chose, malhonnêtement, je vais rembourser. » Parce qu'il y avait la pureté et l'amour. La pureté de Jésus a montré l'erreur de Zachée, mais l'amour de Jésus a poussé Zachée vers le salut. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Une pureté sans faille. Bien-aimé, il y a des moments où on sent que notre corps veut bondir pour s'accrocher au cou de quelqu'un. Mais non, vaut mieux laisser le corps bondir sur place. Tu restes là et la personne qui est en face de toi se moque de toi. Dis, oh, pff, tu dis, Seigneur, je dois rester pur. Je dois rester pur. Je dois faire la différence. Si je bondis, je casse tout. Je casse tout. Si j'existe, c'est pour que les gens voient leurs erreurs à travers ma pureté. Et ensuite, je dois aimer afin que les gens sentent qu'il y a une seconde chance. Amen. C'est important. Deuxième point. Nous devons mener une vie d'adoration et de foi. Une vie d'adoration et de foi. Je commence par la foi. Il faut qu'on ait une vie qui dise, qui reconnaisse que la Bible, hein, c'est la parole de Dieu et qu'elle est totalement la parole de Dieu. Et que quand on dit c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un tableau accroché à un mur. C'est-à-dire que c'est Dieu qui me parle à moi à travers la Bible. C'est ça la vie de foi. Reconnaître que c'est pour moi. Ce n'est pas pour le pasteur seulement, c'est pour moi. Dieu a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour moi. Vivre cette vie-là où on reconnaît que Dieu s'occupe de moi. Il a dit ceci dans Jean 16, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc quand une porte se ferme, je dis, gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai mélangé l'adoration et la foi. C'est-à-dire la foi va t'amener à adorer Dieu pour tout ce qui arrive. Parce que tu crois que ce qu'il a dit est vrai. Il y a un verset qui dit dans Romains 8, 28, « Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, ou on croit, ou on ne croit pas. Vie de foi. Si on croit, eh bien, la jambe qui se casse, c'est pour le bien de qui? C'est pour ton bien. Si on croit, eh bien, le parent qui meurt, c'est pour le bien de qui? C'est pour ton bien. Si on croit, eh bien, le cambriolage que tu as subi, c'est pour le bien de qui? C'est pour ton bien, bien-aimé. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux chrétiens qui viennent dans mon bureau, frère, sœur, ou tu crois, ou tu ne crois pas. Si tu es chrétien, est-ce que tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Alors, c'est que tu viens m'informer comme étant le malheur qui t'est arrivé est en réalité un quoi? Un bonheur. Il faut faire un choix. Ou je crois, ou je ne crois pas. Il faut faire un choix. Vous savez, dans la vie, il y a des moments de silence où on reste là, on médite, on dit, ah oui, il faut que je fasse un choix. Est-ce que la Bible est vraie ou elle n'est pas vraie? Si elle est vraie, alors dans ce cas, et d'ailleurs le choix, c'est le choix que j'ai fait autrefois. Mais je me suis converti à quoi? Je me suis converti à la Bible, à la parole de Dieu. Mais puisqu'elle est vraie, donc ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. C'est ça la vie du vrai chrétien. Vous savez, j'ai reçu des rapports des païens ou des chrétiens touristes ou des semi-chrétiens, des aspirants chrétiens ou des sympathisants qui critiquent les chrétiens qui paraissent fervents. Il me dit, mais pasteur, il faut dire à vos membres là, donc eux, ça c'est les païens hein, qui disent à propos d'un membre de famille qui vient à l'église mais qui dans la famille manifeste moins de foi que le païen. Et c'est le païen qui m'appelle pour me dire, mais pasteur, dites à votre chrétien là, mais on ne comprend pas, il a peur à tout moment, où est son Dieu? Voilà. De telles personnes peuvent-ils avoir soif du salut? Non, puisqu'ils ne le voient pas. Ils ne voient pas en face. Jésus a dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'à travers vous, on doit me voir. On doit voir le salut. Le salut doit dire, viens. Quand on voit ta vie, il y a quelque chose qui dit aux païens, aux désespérés, viens, ici il y a la solution. Viens. Mais quand le païen te voit, il dit, oh, le peureux. Il se dit donc, Jésus n'est pas efficace. À quoi ça sert que j'aille vers lui? Quand le païen te voit, il dit, oh, il ne sait même pas lui-même ce qu'il veut. Parce que le païen regarde ton visage. Il te voit en colère et tu pries en colère et dis aïe. Lui-même est déçu de son Dieu. Mais quand le païen va te voir, alors que le malheur t'est annoncé, glorifier l'Éternel, louer Dieu, il va dire, mais tiens, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que cet homme a que moi je n'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Une vie de foi et d'adoration. Où on reconnaît que Dieu est Dieu. Il contrôle tout. Bien-aimés, vous savez, ce ne sont pas des discours. Dieu va nous éprouver. Ça va venir. Si tu t'engages avec Dieu, ça viendra. De telles situations où tu dois faire la différence. Afin que quoi ? Afin que les observateurs qui sont autour de toi reconnaissent que ton Dieu est le véritable Dieu. C'est ce qui va se passer. Une vie de foi. Comme Élie, il a senti dans son cœur que ça ne pouvait pas continuer. Les prophètes de Baal ne pouvaient pas continuer à régner comme ça. Il a dit, convoquez-les-moi. On se retrouve au Mont Calmer, à la montagne Carmel. On se retrouve là-bas. On va voir ce qu'on va voir. C'est ça un enfant de Dieu. Mais quand on apprend que mais tiens, il y a un sorcier dans la famille et toi tu as peur. Eh bien, on se dit, mais oh, mais tiens, le sorcier est plus fort que Jésus, on dirait. Mais où est la puissance de Jésus? Bien-aimé, il faut être dans une vie de foi où on n'a peur de rien. Même si l'enjeu nécessitera la pluie. Élie a dit, il ne va pas pleuvoir tant que je ne le dirai pas. Ensuite, il a dit, il va pleuvoir maintenant, puisque je le dis. Mais la Bible dit dans Jacques, Élie était qui? Un homme comme nous. Parce que quelqu'un va dire, mais là c'était Élie, il vivait dans le désert, il n'était pas marié, tout ça. Non, la Bible dit, Élie était un homme comme nous. La différence, c'est qu'il avait la foi. C'est ça la vie chrétienne, une vie de foi. Où tu sais que ton Dieu sera avec toi et se manifestera. Et tu l'adores à l'avance. Tu le loues à l'avance. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une vie de louange et d'adoration après le bonheur. Mais ça, ce sont des vies zéro, ça. C'est les touristes chrétiens. La vraie vie d'adoration et de louange, c'est dans le malheur. L'apôtre Paul emprisonné dans la partie la plus difficile de la prison. Dans la partie la plus compliquée de la prison, il commence la louange en ce moment-là, bien-aimé. C'est la vraie vie chrétienne. Vous savez, vers le 7e siècle, il y a un chrétien qui a été arrêté parce qu'il distribuait l'évangile à un faible niveau. Eh bien, il a été arrêté, il fallait le tuer. Ils l'ont amené pour le tuer. Pendant qu'ils voulaient le tuer par les soldats de l'époque, le chrétien commençait à chanter, à louer Dieu. Oh. Mais un des soldats qui était là, il a dit à ses amis, mais qu'est-ce qui se passe? Le chrétien commençait à louer, à glorifier Dieu. Il a dit à ses amis, un des soldats qui était là, arrêtez. Commencez d'abord par moi. Tuez-moi d'abord, parce que moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je deviens comme lui. Je deviens chrétien. Donc tuez-moi d'abord et vous le tuerez ensuite. Bien-aimés, On a tué les deux. Et ensuite, un qui était encore là témoin, lorsqu'il est rentré chez lui, eh bien, il s'est converti. Parce qu'il cherchait qu'est-ce qui fait que ces gens-là soient contents avant la mort. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on leur a dit pour qu'ils soient comme ça? Et il a commencé à chercher cette puissance surnaturelle qui dépasse même la mort, qui dépasse la souffrance, qui dépasse les difficultés de la vie. Il a cherché ça. Et lui, il s'est converti en cherchant. Et quand il s'est converti, il a fait des conversions 1000 fois plus grandes en nombre que ceux qu'ils avaient tués, bien-aimés. C'est pourquoi autrefois dans l'église primitive, on disait un des tués, 10 des convertis. Quand on tuait un chrétien, 10 se convertissaient. Tellement l'église était vivante, c'était des véritables témoins. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils se savaient dans le pèlerinage, dans le voyage. Toi qui veux construire des châteaux sur la terre, tu ne seras jamais un véritable témoin. Tu seras bloqué toujours. Toi qui veux rester sur la terre, tu seras bloqué. La terre n'est qu'un lieu de passage pour sauver les inconvertis. C'est ça la réalité. Troisième point, bien-aimé. Une vie de liberté. Ça, c'est très important. Une vie de liberté. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Et il est écrit dans Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, aujourd'hui, quand on veut être libre dans le Seigneur, on entend toutes sortes d'échos diaboliques. Et ça, on comprend. Des échos diaboliques pour vouloir nous freiner. Mais ce qui est grave, c'est qu'on entend des échos des chrétiens qui veulent nous empêcher d'être libres dans notre vie chrétienne. Quand tu chantes pour le Seigneur à haute voix dans la rue, c'est les chrétiens qui te touchent, mais diminue d'intensité. Mais ce n'est pas normal. Où est la liberté? Quand tu veux prêcher dans le métro, c'est les chrétiens qui te piétinent pour te dire, mais oh, tu ne vois pas que les gens nous regardent. Oh, mais qui t'a dit que moi je ne veux pas que les gens nous regardent? Bien-aimé, où est la liberté? Bien-aimé, moi j'ai décidé dans ma vie, je suis libre. Je vais faire ce qui passera dans mon cœur à tout moment et partout. Je vais prendre mes vêtements, j'écris Jésus sauve, Jésus t'aime, Jésus est puissant. Je prends mes enfants, je donne le nom qui évangélise directement, Dieu fidèle. Voilà. Maintenant, on m'a dit non, la mairie va refuser. Moi, je dis, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que c'est Dieu qui est Dieu et je vais honorer ces dieux-là. Si on ne veut pas nous entendre, mais en appelant mon enfant, eh bien, ils sauront que Dieu existe. Voilà, bien-aimé. Parce que par tous les moyens, je suis libre. Après tout, j'ai été affranchi. Qui va s'opposer à cela? Aujourd'hui, on a mené le christianisme dans la froideur en disant les termes sages. Non, frère, il faut être sage quand même, tout ça, bien-aimé. Moi, j'ai dit, si quelqu'un veut se faire tuer pour Jésus, je l'encourage. Si tu veux te faire tuer pour Jésus, tu ne me verras pas te dire, sois sage. Je te dirai, Dieu s'occupera de ta famille, va te faire tuer pour Jésus. Voilà. On est libre. Il faut être libre. Ce qui vient dans ton cœur, c'est ce que tu dois suivre. C'est ça. Si Dieu doit te bloquer, que lui-même te bloque, ce n'est pas moi qui vais te bloquer. Bien-aimé, je ne dis pas qu'on ne peut pas être bloqué. Dieu peut nous bloquer. Même les conseils des autres, ça peut être Dieu qui leur parle pour nous dire, tais-toi, ce n'est pas le moment. Laisse-toi former d'abord, grandis d'abord. Mais il faut qu'on discerne que c'est Dieu. Il ne faut pas qu'on se laisse intimider par la peur ou par des raisonnements. Mais il faut qu'on discerne, mais tiens, là, c'est Dieu vraiment qui me freine à travers le conseil de sagesse qui est donné. Je comprends. Il n'y a pas de problème. La Bible nous montre dans Actes des Apôtres, chapitre 16, il y a Paul qui a été arrêté à 2 reprises par Satan. Aujourd'hui, les gens diront, mais non, Satan ne peut pas nous arrêter. Non, si Dieu veut que Satan nous arrête, il nous arrêtera. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de discerner que Dieu a voulu qu'il nous arrête. Du moment qu'on discerne que ça vient de Dieu, ben on se calme. Mais on ne doit pas se laisser arrêter parce que le christianisme d'aujourd'hui est froid. Refusons cela, bien-aimés. Refusons cela. tu prends tes vêtements, tu écris Jésus sauve. Moi, je cherche quelque chose pour mettre sur ma voiture Jésus-Christ, le Sauveur international. Donc, dès que je vais trouver ça, les bons écrits, j'écris sur ma voiture Jésus-Christ, le Sauveur international. Les gens vont dire, mais on va la casser. Ben, au moins, j'aurai quelque chose à lui donner, quoi. Parce que je ne vois pas quoi lui donner. Alors, au moins qu'on casse ma voiture pour sa gloire. Amen. Le Sauveur international. Quand j'entends la radio... Gary Lineker, le buteur international. Moi, j'ai dit, mais non, mais attends, il faut qu'on parle aussi du Sauveur international. L'international basketteur français, un tel. Moi, j'ai dit, non, attendez, il faut qu'on parle aussi du Sauveur international qui sauve toutes les nations, qui ne sauve pas que seulement les Africains, qui ne sauve pas seulement les Coréens, qui sauve les Arabes, qui sauve les Américains, qui sauve tout le monde. Ce ne sont pas, c'est pas des choses culturelles, mais il est le Sauveur international. Le Sauveur de toutes les nations. Amen. C'est ça la réalité. Il faut être libre dans sa vie chrétienne. N'écoute pas les voix qui vont t'amener à l'étouffement. Sois libre. Si Dieu t'inspire de parler, parle. Si les gens te bloquent, cherche le discernement de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu ou c'est l'ennemi qui veut te bloquer? Si le discernement te dit, c'est l'ennemi, tu parles. En général, moi, je te dirais, parle. Parle. Chante. Si tu te feras licencier au travail, fais-toi licencier. C'est le bon sacrifice à donner à Jésus-Christ, ton travail. Les gens diront, mais il a une famille. Et Dieu ne sait pas qu'il a une famille. Dieu sait qu'il a une famille. Et qui? Comment les gens se convertiront-ils si personne ne parle? Parce qu'il faut protéger le travail. En France, c'est interdit. Bien-aimé, moi, je te dirais, parle. Même si c'est interdit, nous n'avons pas à obéir aux hommes, nous avons à obéir à Dieu. Lorsque deux commandements, et celui de Dieu et celui des hommes, entrent en conflit, quel est le commandement qui gagne? C'est le commandement de Dieu qui gagne. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc quand tu te retrouves entre ce commandement-là et le commandement des hommes, c'est le commandement de Dieu qui l'emporte. Si l'Esprit te pousse à parler, tu parles. Mais si l'Esprit ne te pousse pas, tu pries, tu fais ce que l'Esprit te pousse à faire. Mais on n'a pas à prendre le commandement de Dieu, de sauver l'humanité, à mettre de côté pour protéger notre travail ou protéger nos enfants ou quoi que ce soit. Non, bien-aimés, il y a des pasteurs en Chine qui font 4 ans de prison et leurs enfants restent avec leur maman. Dehors, ils savent que Dieu va les protéger. Il y a une chrétienne qui a dit, je préfère mourir avec Jésus-Christ que vivre sans lui. Voilà, je ne veux pas vivre dans une logique de défaite. Je sais que bon, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit la vérité parce qu'il fallait sauver ma famille. Bon, je suis là, tu es avec ta famille mais tu n'es plus à l'aise. Tu sais qu'il y a un déchirement, une déchirure qui s'est passée dans ton cœur. Tu sais que tu es un faiblard, un poltron, tu as eu peur. Tu as nié, renié Jésus-Christ. Tu n'es plus bien. Comme Pierre avait pleuré. Non, bien-aimé, autant être en prison, en paix, sachant que j'ai honoré mon Dieu. Et Dieu fera le reste, bien-aimé. La vie de liberté en Jésus, c'est très important. La vie de liberté. Sois libre de parler à quiconque quand tu es poussé par l'Esprit. Sois libre. Ne te laisse freiner par personne. Maintenant, si certains freins sont de Dieu, ben tu cèdes. Mais en général, ils ne sont pas de Dieu. Rares seront des freins de Dieu. En général, si tu es poussé, c'est Dieu qui te pousse à parler. Bien-aimés, soyons libres. Amen. Soyons libres. Jésus nous a libérés. Vivons librement. On va nous dire, ça va créer des problèmes à l'hôpital. Si tu amènes tel nom, ce n'est pas ton problème. Sois libre. Sois libre. La Bible dit, 1000 tombent à côté, 10 000 à droite. Je ne suis quand même pas atteint, même si le nombre d'ennemis augmente. Nous allons changer, laisser la place au changement de cassette et on prie en attendant. Seigneur, nous prions que tu nous aides à être libres, ô Éternel. À être libres, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre notre vie chrétienne. telle qu'elle vient et non pas telle que les gens veulent que nous puissions la vivre, telle que la religion d'aujourd'hui veut que nous puissions la vivre. Nous voulons la vivre telle qu'elle est en nous. Alléluia. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyons libres. C'est comme si on disait à un oiseau, ne vole pas. Non, un oiseau est fait pour voler. On ne peut pas lui dire, ne vole pas. Il est fait pour ça. Un chrétien est fait pour vivre sa vie chrétienne librement. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchie. S'il faut aller dire au pasteur que ce qu'il est en train de faire n'est pas une bonne chose, parce qu'il y a tel verset qui le dit, il faut aller voir le pasteur pour le dire. Il faut être libre. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Il faut craindre la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus prisonniers des églises, prisonniers des courants, des mouvements chrétiens, prisonniers des hommes. Ils ont peur, on dit, ne touchez pas à mes oints. Mais est-ce qu'en allant le corriger, tu le tapes? En allant le corriger, tu fais quoi de mal? N'est-ce pas l'amour? Bien-aimés, ayons le courage lorsque nos autorités, nos dirigeants sont dans l'erreur de venir les voir pour dire, frère, pasteur, apôtre, j'ai lu dans la Bible quelque chose qui semble en contradiction avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Je t'ai vu gifler quelqu'un là-bas, alors ce n'est pas bon. À lui d'expliquer aussi à partir de la Bible si ce qu'il a fait est vrai ou pas. Soyons libres, bien-aimés, que personne ne nous fasse de nous ces prisonniers. Personne. On a besoin des conducteurs, mais lorsqu'ils sont dans l'erreur, il faut qu'on leur dise. C'est ça aussi la liberté. Soyons libres. Soyons libres dans nos familles. Soyons libres de dire ce que nous pensons. Soyons libres. Et Dieu lui-même, si on a de bonnes intentions, si on respecte les premiers éléments que j'ai donnés, l'amour et la pureté, Dieu ne nous laissera pas se tromper. Tout ce qui viendra à nous en général, ça sera de lui. Il ne nous laissera. Et quand ça ne sera pas de lui, il nous corrigera avant qu'on sorte la chose. Parce qu'on a des intentions pures. On a des intentions d'amour. C'est ça qui compte. Et bien aimé, le quatrième élément, c'est la prière. Moi, j'appelle cela le travail de l'âme. La Bible dit dans Ésaïe 53, Jésus-Christ, à cause du travail de son âme, verra une postérité. Jésus-Christ, bien-aimé, ne nous a pas sauvés en nous parlant de lui-même directement, physiquement. Jésus est mort déjà il y a plus de 2000 ans, physiquement, mais il était vivant en esprit. Mais comment nous sommes sauvés aujourd'hui? Parce qu'on nous a parlé par quelqu'un. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ça, ce n'est que le secondaire. L'essentiel, c'est tout est accompli. Jésus a dit, j'ai fini mon travail. Quel était le travail de Jésus? C'était de nous sauver. Parce que son nom, c'est Yahvé sauve. Donc, il a fini le travail de sauver ce qu'il devait sauver. Donc, j'ai été sauvé. Pas maintenant, j'ai été sauvé à la croix. Quand Jésus criait, tout est accompli, il m'avait sauvé. C'était ça son travail. Bien-aimé. Et la Bible dit comment il m'a sauvé? Par le travail de son âme. Pendant qu'il souffrait, il me sauvait. Il priait pour moi, il me sauvait. Il me voyait à l'avance, il me sauvait. Alors si nous voulons sauver les gens, si nous voulons évangéliser, nous devons apprendre à prier pour les gens. Nous devons apprendre à souffrir pour eux. Il faut qu'il y ait un travail. Quand quelqu'un te gifle, c'est là que tu es dans une bonne position pour prier pour son salut. Quand quelqu'un te fait une injustice, c'est là que tu es bien positionné pour prier pour lui. Quand tu pries après une telle souffrance, il y a une action forte de Dieu qui se passe. Nous, on est là à réclamer, comme certains ont appris à leurs brebis, à réclamer la malédiction sur tous ceux qui nous font du mal, qu'ils soient maudits. Il m'a touché. Quiconque touche le chrétien, il est maudit. Donc on ne fait que maudire, maudire. Dieu nous a appelés à sauver. Il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez. Donc quand quelqu'un nous fait du mal, donc lorsqu'on intercède pour une telle personne, il y a une plus grande puissance de salut qui se met en branle. Parce qu'on est dans le travail de l'âme. Notre âme souffre à cause de cette personne-là. Et c'est ce qui produit le salut. C'est le travail de l'âme. C'est ça le plus important, bien-aimé. Je vous ai cité trois éléments. pureté, amour, foi, adoration, liberté. Mais le plus important, c'est le travail de l'âme. Aimer les gens et souffrir pour eux dans le cœur, pour leur salut. C'est le plus important. Parce que c'est ça qui nous a sauvés. Car Jésus-Christ a dit, il est écrit dans Isaïe 53, c'est à cause du travail de son âme que Jésus-Christ verra une postérité. À cause du travail de son âme souffrait. Bien-aimé, c'est clair, si ton âme souffre, forcément tu parleras, tu seras libre. Parce que on a vu des gens qui étaient des poltrons, des peureux. Mais lorsqu'ils en ont eu marre de souffrir, ils se sont rebellés. Voilà. Quand ton âme souffrira trop de voir les gens non sauvés, souffrant dans le péché, un jour ou l'autre, la rébellion viendra. Tu seras libre, tu manifesteras la foi en Jésus, tu manifesteras l'adoration en Jésus parce que tu en as marre de laisser le diable dominer. Tu en as marre. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Il a dit, non, on est en petit nombre, d'accord. Mais on en a marre de voir les rois étrangers venir nous dominer. Je me rébelle, je refuse. Et la Bible dit que Dieu a été avec lui. Il a gagné la bataille. À un moment, quand on souffre trop, on se rébelle. On dit, j'en ai marre de voir les gens souffrir. J'en ai marre de voir le péché dominer. Moi, je vais prier. Je vais jeûner. Je vais m'enfermer dans une retraite. Chercher la face de Dieu. N'est-ce pas que Jésus-Christ a tout accompli? N'est-ce pas qu'il est mort à la croix? C'est là que tout cela revient, parce qu'on en a marre de souffrir. C'est le travail de l'âme qui compte. On doit travailler dans notre âme. Prier, pleurer, que les gens soient touchés et changés. Et à chaque fois qu'on souffrira, à chaque fois qu'on pleurera, Dieu vient venir nous consoler en nous disant, vois ce qui est fait. Ce qui a été fait par ton Seigneur à la croix. Vois ce qu'il a fait à tel moment. Vois, le salut est possible, le changement est possible. Et on est consolé et on se met au travail. Parce qu'on a fait un travail de l'âme. On a prié. On a adoré. Parce que le travail de l'âme, c'est aussi adorer, reconnaître que Dieu est Dieu. Mais Dieu, tu es bon. On dit que tu es amour. Où es-tu? Révèle-toi. Daniel a fait le travail de l'âme. Lorsqu'il y avait des problèmes dans son peuple, il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Si mon peuple a péché, pardon. Mais on ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Fais quelque chose. Et la Bible dit qu'il priait pendant 21 jours. Le travail continuait. Et la réponse était sur le chemin. Mais et ça nécessitait un travail spirituel. Et Daniel travaillait et la réponse est venue. Son peuple par la suite a été libéré. Il nous faut prier. La prière fait agir Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. C'est Jésus qui est le salut de Dieu. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que d'autres Jésus, nous ne sommes que les membres du corps de Jésus. Et lorsque nous prions, Jésus entre en action par son esprit pour sauver réellement. Il faut qu'on fasse tout pour que quoi ? Que Jésus agisse. Souvenez-vous de cette phrase-là. Tout faire pour que Jésus agisse. Parce que qui peut sauver un homme, c'est Jésus. Pourquoi? C'est lui le salut de Dieu. Alors tout faire pour que Jésus agisse. Comment Jésus agit quand il y a les malheurs? La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alors, si nous voulons que Jésus agisse, il faut qu'on soit malheureux de voir les autres souffrir. Il faut qu'on soit malheureux de voir les autres s'égarer. C'est comme ça que Jésus sera attiré pour venir sauver et libérer. Comme Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu moi-même le sauver. Et dans le Nouveau Testament, il dit, j'ai vu la souffrance de l'humanité, je suis descendu moi-même. Dans l'Ancien Testament, c'était à travers Moïse, par son esprit. Mais dans le Nouveau Testament, c'est lui-même. Il s'est fait une chair. Il s'est fait un corps. Il est descendu au milieu des hommes, les sauver. Alors, bien-aimés, si Dieu lui-même est descendu, donc le salut est possible, le salut est réel, le salut est là. Le salut est là, bien-aimés. Le salut est là. L'esprit est là pour le confirmer. Le salut est là. Nous devons nous mettre en marche, être des témoins. Dieu lui-même est descendu et nous sommes ses membres. Il marche avec nous afin de sauver. Et comme il a dit que tout est accompli, tout est accompli. Alléluia. Que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur nous réveille. Que nous soyons des témoins. Tout faire pour que Jésus agisse. Tout faire. Peut-être que ce jour-là, ça sera que tu parles. Un autre jour, ça sera que tu adores en public. Mais tout faire. Peut-être qu'il faut que tu fasses des actes de bonté concrets. Mais il faut que tu fasses tout pour que Jésus, tu lui donnes la possibilité de t'utiliser pour agir. Peut-être qu'il faudra pleurer. En pleurant, c'est là que Jésus sera attiré. Mais tout faire pour qu'en finalité, Jésus agisse et sauve. Parce que c'est lui qui marche en nous. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à être des témoins. Bien-aimés, je sais, comme nous l'avions dit hier, que ça va demander le dépouillement total. Mais il y a une phrase que Dieu m'a dite il y a 2 jours. Il m'a dit, quand quelqu'un se dépouille, il dépose ce qu'il a à l'endroit où il était. Mais en marchant avec moi, il va récupérer tout ce qu'il a déposé en chemin, dans sa marche avec moi. Dieu te dit, suis-moi, allons à Marseille. Mais avant, il faut que tu déposes ta richesse, tu déposes ton honneur, tu déposes ta gloire humaine. Mais sache que tout ce que tu déposes à mes pieds, femme, mari, enfant, bien matériel, honneur, diplôme, tout ce que tu déposes, tu vas récupérer cela en marchant avec moi, en meilleure qualité et en meilleure quantité. Et il y a un verset qui le confirme, qui dit quoi? Jette ton pain sur les eaux. Et la suite, ça dit quoi? Eh bien, tu le retrouveras, ce pain-là. Il va revenir. Jette ton pain et suis le Seigneur. Dans ta marche, tout cela reviendra en meilleure qualité et en plus grande puissance et gloire. Ne vous laissez pas effrayer par Satan qui te dit, mais tu seras dépouillé, tu n'auras rien. Nous sommes quand même dans des sociétés civilisées, il n'y a pas de hasard. Où tu bosses, où tu as ceci, où tu as la retraite. Bien-aimé, n'écoutez pas ça, on peut vivre sans retraite. Parce que Dieu est tout puissant. N'est-ce pas celui qui a créé l'or et l'argent? Est-ce que l'apôtre Pierre avait une retraite? Est-ce que l'apôtre Paul avait une retraite? Mais la Bible dit qu'il louait une maison à Rome. Prisonnier, mais il louait une maison et il recevait les gens pour prêcher l'évangile. Comment un prisonnier trouvait-il l'argent? C'est parce que le Seigneur des Seigneurs, le pourvoyeur, y avait géré là. Vendez, vendez et suivez Jésus-Christ. Vendez le reste et suivez Jésus. C'est un discours peut-être difficile à notre époque, mais c'est le discours de Dieu. Et ceux qui croient en ce discours vont voir la gloire du Seigneur. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici le temps nouveau. Le temps nouveau pour toi, chantons gloire à l'agneau, le sauveur de l'humanité. Et nous recevons de Christ ce qui nous a promis, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, et nous recevons de Christ
ce qu'il nous a promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
La mort a disparu.
La mort a disparu. Dieu donne un plein salut.
Et sur la Normandie.
Et sur la Normandie, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
La mort a disparu.
La mort a disparu.
Dieu donne un plein salut.
Et sur le monde entier.
Le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
Pendant que la musique continue, médite tout ce qu'on vient d'entendre. Parfois le diable vole rapidement. À cause des routines chrétiennes, à cause des habitudes, une prédication peut être volée comme ça. Tu vas méditer et dire au Seigneur, ou réaliser où se trouve ton appel dans ce qui a été dit. Dieu t'a parlé, t'a dit quelque chose. Médite la chose pendant que le piano continue à jouer. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons fait ces séminaires, Seigneur, non pas pour augmenter nos connaissances bibliques, c'est pour entendre ta voix, Seigneur. C'est pour entendre ton appel. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Il faut que chacun écoute ta voix. Comme Zachée l'avait écouté, l'avait entendu. Tu reviens bientôt. Il faut que chacun entende ta voix comme Bartimée l'avait entendu. Tu reviens bientôt. L'heure n'est pas la distraction. L'heure n'est pas l'amusement. Oh Seigneur, merci de placer pour chacun dans son cœur ce qui le concerne. Par rapport à ce qui a été dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, 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 nous sommes venus entendre ta voix. Alléluia. Alléluia. Merci de te manifester, Seigneur, par ton Esprit Saint, par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le grand jour s'est levé.
Le grand jour s'est levé.
Bien-aimé, si tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un, tu pardonnes au nom de Jésus.
Nous a visité.
Purifie ton cœur. Un témoin, c'est un homme pur, une femme pure.
Le jour nouveau.
Si tu avais peur, n'aie plus peur. Jésus te libère. Jésus te libère de la peur.
La Normandie, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
Le grand jour s'est levé encore.
Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités.
Voici le temps nouveau.
Voici
le temps nouveau. Chantons.
Et sur mon frère, ma soeur.
Et sur mon frère, ma soeur. Le grand jour s'est levé.
Le Saint
Esprit est là.
Bien-aimé, il y a une parole encore que je reçois de dire. Le Seigneur veut que tu te souviennes de ce qu'ont fait les apôtres. Après ce verset des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, ces gens-là ont bouleversé le monde et les hommes ont reconnu qu'ils avaient bouleversé. Alors ne regarde pas ce que tu es. Livre-toi seulement. Livre-toi. Jésus peut faire plus qu'avant. Il a dit, ceux qui le suivront de gloire en gloire. Les Actes des Apôtres, ce n'est qu'une base. Mais avec toi, Dieu peut fluir plus grand. Jean 14, 12, 14, je le dis. Ceux qui croiront en mon nom, dit Jésus, feront de plus grandes choses. Mais il faut croire. Pendant qu'on continue à chanter, inscris-toi dans Jean 14, 12, 14. Quand il dit que ceux qui croient en son nom feront de plus grandes choses. Ce n'est pas pour toi que tu feras les plus grandes choses. Mais c'est parce que Jésus trouvera en toi un canal simple, un canal humble. Un canal libre. Bien-aimé, dégage-toi encore. Nous continuons. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons être attentifs. Attentifs. Comprendre que oui, nous sommes petits peut-être. Nous sommes des humains faibles. Mais la Bible dit, ta puissance se manifeste dans la faiblesse. Tout ce que tu nous demandes, c'est de nous humilier. Tout ce que tu nous demandes, c'est de croire. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, de nous dégager de tout ce qui pourrait être des fardeaux, des charges qui nous empêchent d'être libres. Les richesses qui nous font peur, quand on pense à les quitter, ça devient des charges. Le mariage peut devenir une charge. Nous refusons ces charges-là. Nous voulons rester en toi. La météo financière peut devenir une charge. Nous refusons cela. Le journal télévisé peut devenir une charge, nous refusons. La logique humaine peut devenir une charge, nous refusons. Nous voulons être libres, Seigneur. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Oh Seigneur, libre. Libre. Car tu te prépares à faire des choses.